D'après le dictionnaire, un sujet tabou est un sujet dont on ne doit pas parler par crainte ou par pudeur. C'est un sujet qu'il est préférable de ne pas évoquer si l'on veut respecter les codes de la bienséance d'une société donnée. Et aujourd'hui encore, les sujets tabous ne manquent pas. Sexualité, mort, argent, politique, religion, etc. etc. Il y a plein de sujets tabous dans notre société aujourd'hui. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet tabou, particulièrement dans notre pays. Mais comme la Bible en parle, et en parle même beaucoup, je pense que c'est important d'en parler aussi entre nous. Alors si j'ai bien réussi mon coup, là vous êtes vraiment, votre curiosité est au taquet, vous dites, mais de quoi on va parler ce matin? Qu'est-ce qu'on va pouvoir évoquer ce matin? Eh bien on va parler tout simplement d'argent. Boum. Le mot est lâché. On va parler d'argent. On va voir ensemble ce que la Bible dit à propos de l'argent, et plus particulièrement en lien avec l'offrande, la libéralité, la générosité chrétienne. C'est un sujet dont on ne parle peu, voire jamais. Je crois que c'est la toute première fois qu'on aborde ce sujet de manière directe dans le cadre d'un culte, dans le cadre d'une prédication. Je vous dis ça pour vous rassurer, peut-être ceux et celles qui sont là pour la première fois parmi nous dans un culte. Non, ce n'est pas notre sujet dada. Loin de là même. Et pourtant, la Bible en parle beaucoup. Juste pour vous faire prendre conscience à quel point la Bible parle de ce sujet. Un commentateur écrit « Le Nouveau Testament contient 215 versets qui se rapportent à la foi. » Retenez ce chiffre. 215 versets qui se rapportent à la foi. Il contient, le Nouveau Testament, 218 versets qui se rapportent au salut. La foi et le salut, des sujets essentiels de la vie chrétienne. Est-ce que vous avez une idée de combien de versets dans le Nouveau Testament traitent de la question de l'argent, de la gestion de nos biens, des finances? 215, 218, 2084. 10 fois plus de versets dans le Nouveau Testament qui sont en lien direct avec l'argent ou la gestion de nos biens ou les finances, que de versets liés à la foi, au salut, qui nous semblent pourtant essentiels dans notre vie. Autre élément, selon une étude de France Générosité, un syndicat professionnel qui représente 89 associations caritatives, comme Amnesty International ou l'UNICEF, par exemple, en 2015, donc l'an dernier, 58% des Français, de nos compatriotes, déclare soutenir financièrement une ou l'autre œuvre caritative pour une somme annuelle moyenne de 206 euros. Voilà ce que les Français dépensent en moyenne. 206 euros pour les œuvres caritatives. La question vient pour nous maintenant. Qu'en est-il pour nous en tant que chrétiens? Qu'est-ce que la Bible dit de l'argent dans l'Église? Quelles instructions la Bible nous donne à propos de la libéralité, à propos de la générosité chrétienne? Comment déterminer si nous donnons comme Dieu voudrait que nous donnions? Toutes ces questions trouvent en très grande partie leur réponse dans deux chapitres de la Bible, dans les chapitres 8 et 9 de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Mais avant d'ouvrir la parole, je veux juste revenir sur le contexte pour bien qu'on saisisse pourquoi Paul traite de ce sujet dans cette lettre. En fait, dans cette seconde lettre aux Corinthiens, Paul aborde, entre autres choses, un projet qui lui tient spécialement à cœur, un projet de collecte de fonds dans les différentes églises qu'il a lui-même fondées dans sa vie de missionnaire, en vue de subvenir aux besoins de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem était en grande partie composée des pèlerins venus pour célébrer la fête de la Pentecôte et qui, après avoir entendu la prédication de Pierre, s'étaient convertis. Et ces hommes et ces femmes, pour beaucoup, étaient restés à Jérusalem, sans moyens financiers adéquats, bien entendu. De plus, de nombreux juifs qui habitaient Jérusalem à ce moment-là et qui s'étaient convertis avaient sans doute perdu leur travail à cause de la persécution. Persécution subie suite, vous vous souvenez aussi de cet événement, au martyr d'Étienne. Les juifs qui se sont convertis au christianisme ont été poursuivis et sans aucun doute, plusieurs vivaient dans une situation financière précaire. De leur côté, les Corinthiens, comme d'autres églises fondées par Paul, avaient été suffisamment prospères pour venir en aide à leurs frères et sœurs à Jérusalem, parce qu'eux n'avaient pas encore subi de telles persécutions, de telles privations, en tout cas. Ils étaient à même de pouvoir secourir les chrétiens de Jérusalem. Et c'est dans ce contexte bien précis que Paul écrit aux Corinthiens les chapitres 8 et 9, par rapport à ce projet de collecte. Ces chapitres, je vous invite vraiment à les lire pendant votre semaine pour avoir une vision plus globale de la chose. Mais ce matin, pour une question de temps, nous allons n'aborder que la fin de ce passage. Et donc, on va lire ensemble 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Vous pouvez le lire dans vos Bibles, le texte va s'afficher aussi ici si vous voulez suivre avec moi. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Donc, Paul écrit. « Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Ainsi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous accorde. Béni soit Dieu pour son don incomparable. » Dans ce texte, Paul nous dévoile 3 arguments forts pour nous encourager à la libéralité, à la générosité chrétienne. Nous devons d'abord être généreux pour réaliser les œuvres bonnes voulues par Dieu. Nous devons être généreux pour susciter la prière et la reconnaissance envers Dieu. Et enfin, nous devons être généreux pour démontrer la réalité de notre foi en Dieu. Donc avant tout, la première raison qui doit nous pousser à être généreux, on voit dans les premiers versets de ce chapitre, c'est le désir, la volonté de réaliser les œuvres bonnes voulues par Dieu. Et Paul énonce au verset 6 une vérité agricole très simple, pas plus simple. Si vous semez peu, vous récoltez peu. Si vous semez beaucoup, vous récoltez beaucoup. La quantité de la récolte est directement proportionnelle à quoi ? À la quantité de la semence. C'est une lapalissade, il n'y a rien de plus logique, de plus normal. Et Paul prend ce principe basique de l'agriculture pour l'appliquer à l'attitude de chrétien par rapport à l'offrande de ses biens et montre ainsi que notre générosité représente un investissement pour l'avenir, que c'est la quantité de ma générosité qui va permettre aussi en partie, en grande partie, la quantité de bonnes œuvres, d'œuvres bonnes voulues par Dieu. C'est parce que je donne tant que Dieu va pouvoir réaliser tant aussi. C'est un investissement pour la réalisation d'œuvres bonnes pour Dieu. Et Paul encourage donc les Corinthiens à donner largement à la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem, parce que le don fonctionne comme une semence agricole. Plus le don sera important, plus cette œuvre sera bonne, sera réussite. Plus les Corinthiens donneront largement pour les chrétiens de Jérusalem, plus les chrétiens de Jérusalem pourront vivre décemment. Le gros problème avec ce verset, c'est que certains sont allés beaucoup trop loin en affirmant à partir de ce verset et d'autres que celui qui donne beaucoup d'argent recevra encore plus d'argent de la part de Dieu. Ils prennent ce verset, ils en prennent d'autres, comme Malachie 3, verset 10, qui dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres, dans ma demeure. » De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Est-ce qu'en donnant, je reçois plus d'argent ? Non, c'est une très grave erreur, et pour deux raisons principalement. D'abord, c'est un mensonge clair. Ces versets, c'est vrai, promettent une bénédiction pour celui qui donne. Il y a une bénédiction pour celui qui donne. La Bible est formelle là-dessus. Mais il n'est jamais dit que cette bénédiction sera financière, ni qu'elle sera pour ce monde. Jamais. La générosité de celui qui donne a plutôt comme résultat, je crois, une croissance spirituelle devant Dieu, à la stature de Christ. Barnabas est un bon exemple de cela. Barnabas, il est dit en acte 4, verset 37, qu'il a vendu une maison, son habitation, et qu'il a donné le fruit de cette vente à l'Église pour subvenir aux besoins des uns et des autres dans Jérusalem, dans l'Église de Jérusalem. Il a donc semé généreusement. Et la moisson, pour lui, en a été une transformation progressive. En acte 11, verset 24, on le décrit comme un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint, de foi. Alors sans aucun doute, ce n'est pas simplement le fait qu'il ait donné cet argent qui a fait de lui un homme rempli d'Esprit Saint, de foi, mais sûrement que ce détachement vis-à-vis de son propre argent, cette générosité chrétienne a eu aussi un impact dans sa vie personnelle, dans sa stature, dans sa croissance spirituelle à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Ces versets aussi ne font pas référence à une moisson dont je serai directement le bénéficiaire. C'est avant tout une moisson pour qui ? Pour Dieu, pas pour moi. Ce n'est pas parce que je donne aujourd'hui 5 euros que demain je vais recevoir 50 euros. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais si je donne aujourd'hui 5 euros, Dieu va pouvoir utiliser ces 5 euros pour ses œuvres bonnes qu'il a voulu d'avance. Une deuxième raison pour laquelle cette interprétation est une grave erreur est en lien avec la motivation du don. Si on promet une bénédiction financière à celui qui donne, qu'est-ce qui va le motiver à donner ? Il n'a pas du gain ? Il n'a pas du gain, forcément. Ce sera sa motivation première. L'argent devient une idole encore plus forte, comme s'il y en avait besoin. Et Dieu devient une simple machine à sous, rien de plus. Non, ce n'est pas une attitude de cette nature-là qui doit nous animer quand nous donnons. Et c'est un mensonge, encore une fois. Mais alors, quelle attitude doit nous animer quand nous donnons pour Dieu ? Eh bien, Paul y répond clairement au verset 7, juste le verset suivant. Il donne 4 principes qui doivent nous guider dans notre attitude pour donner. Premier principe, donner selon ce que l'on a décidé dans son cœur. Autrement dit, personne ne doit te dire ce que tu dois donner. Et je ne suis pas là ce matin pour vous dire ce que vous devez donner. Personne ne doit le dire. C'est une affaire entre toi et Dieu. C'est une décision qui se prend dans son cœur. Ce principe nous montre aussi que donner est un acte réfléchi. On ne donne pas de manière impulsive comme ça, sur un coup de tête, mais c'est un acte réfléchi, réfléchi dans la prière. C'est un acte de réflexion de donner. Deuxième principe, donner sans regret. Ce n'est jamais un sentiment de culpabilité qui doit être à la base de notre motivation pour donner, jamais. Et c'est l'une des deux raisons pour lesquelles j'ai demandé à Ricardo d'avoir ce temps d'offrande pendant le temps de louange, avant que j'intervienne. Parce que je ne voudrais pas que suite à cette intervention, plusieurs donnent avec un sentiment de culpabilité par rapport à ce qu'ils auraient entendu. Non, non, on ne donne pas par culpabilité. Donner, troisième principe, sans contrainte. C'est un acte volontaire. Personne ne doit me forcer à donner. Ceux qui passent avec les paniers n'ont pas un kalachnikov à côté de la main en disant non, on ne donne, on ne contraint personne à donner. Et je pense que toutes les précautions sont prises dans notre Église pour que ce soit le cas, pour que chacun soit libre de donner ou pas. Et dernier principe, le plus important, sur lequel on reviendra beaucoup, donner avec joie. Donner avec joie. C'est la joie qui devrait dominer nos sentiments lorsque nous avons l'occasion de donner pour l'œuvre de Dieu, pour les bonnes œuvres, les œuvres bonnes voulues par Dieu. Quand l'offrande passe, ce n'est pas un enterrement, c'est un moment de joie. Ça devrait être un moment de joie dans nos cœurs. Et à travers ces quelques considérations, on remarque quelque chose d'important. pour ce qui est du don, le comment est plus important que le combien. Le comment est plus important que le combien. Dieu accorde davantage d'importance à l'attitude qu'au montant du don. Dieu est bien plus intéressé par mon attitude de cœur, dans la joie, quand je donne, j'espère, pour chacun d'entre nous, que par le montant de mon chèque. Il y a une bonne et une mauvaise manière de donner. De quelle manière donnons-nous? De quelle manière donnes-tu? Avec regret, sous l'effet d'une contrainte extérieure ou personnelle, ou sous l'effet du poids de la culpabilité, ou est-ce que tu donnes avec joie, avec un grand sourire, parce que tu sais que ça va servir Dieu et son œuvre? C'est uniquement dans cette dernière attitude que ton don sera réellement agréé par Dieu, que ton don sera réellement une bénédiction, un temps de réjouissance. Alors quand on pense au fait qu'il faut donner avec joie, il y a une question immédiatement qui vient à l'esprit peut-être. Peut-être que vous êtes déjà posé cette question-là. Et quand je n'ai pas la joie, qu'est-ce que je fais? Je ne donne pas alors, du coup. On fait un vote à main levée? Non. Randy Alcorn, dans son livre « Le principe du trésor » écrit « Cela ne signifie pas pour autant que nous devrions uniquement donner quand nous ressentons de la joie. La joie accompagne et suit l'acte d'obéissance. Elle ne le précède pas. N'attendez donc pas d'avoir envie de donner, sinon l'attente pourrait être longue. Donnez et voyez la joie que vous éprouvez. » Et Hudson Taylor, le célèbre missionnaire, a expérimenté cela. Il écrit « Moins je dépensais pour moi-même, plus je donnais aux autres, plus mon âme se remplissait de joie et de bénédiction. » Mais en fait, le vrai problème, ce n'est pas de savoir s'il faut donner ou pas lorsqu'on a manque de joie pour le faire, mais plutôt de savoir pourquoi je n'ai pas la joie de donner. Le vrai problème, c'est ça. Qu'est-ce que mon manque de joie pour donner cache dans ma vie? Et souvent, c'est une idolatrie vis-à-vis de l'argent, bien entendu. Au verset 8, Paul poursuit, et je vous relis ce verset, il dit « Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous aurez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Paul évoque une autre raison qui doit nous pousser à être généreux. C'est le fait que Dieu nous garantit que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. C'est une garantie tout risque de la part de Dieu. Il n'y a qu'à voir le nombre de tout dans ce verset. Toutes sortes de bienfaits, en tout temps, en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, toutes sortes d'œuvres merveilleuses. Dieu nous donne une garantie tout risque. Nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Et la grande vérité de ce verset, c'est que Dieu pourvoit matériellement et spirituellement à tous nos besoins, pour que nous puissions participer à la réalisation des œuvres bonnes pour Dieu. Dieu s'occupe de nous. Paul appuie cette vérité dans les versets suivants en citant des versets de l'Ancien Testament, le psaume 112, verset 9, et Ésaïe 55, verset 10. Et ces versets, ils affirment quoi? Ils affirment que Dieu est le propriétaire de toutes choses et que nous n'en sommes que les gestionnaires. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Étienne disait dans Stéphano, dans sa prière, disait que nous sommes la propriété de Dieu. Et c'est une réalité. Dieu est propriétaire de tout. De moi, mais aussi de mon portefeuille. Il est propriétaire de toute chose. Dieu est le propriétaire de tout. Nous ne sommes que des gestionnaires de l'argent qu'il nous donne. C'est Dieu qui fournit la semence au semeur. Au verset 10, Dieu, celui qui fournit la semence au semeur, est lui-même le pain dont il se nourrit. Et lui donne le pain dont il se nourrit, pardon. Dieu fournit la semence au semeur. Dieu fournit l'argent aux travailleurs. Parce que Dieu nous permet d'avoir les capacités physiques, intellectuelles, d'exercer les métiers que nous exerçons. Dieu nous permet de subvenir à nos besoins. C'est une grâce de Dieu. Et ce n'est pas nous, en premier, qui recevons cet argent. C'est Dieu qui nous le donne. Tout notre argent est à lui. Nous avons tout cet argent qui nous est donné par Dieu. Et il nous demande d'en donner une part pour être encore davantage béni, pour davantage bénir son œuvre sur cette terre. Tozer, un célèbre théologien, écrit « Un objet aussi élémentaire que l'argent peut être transformé en trésor éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés, en vêtements pour les démunis. Il peut permettre à un missionnaire de continuer activement de gagner des âmes à la lumière de l'Évangile et ainsi se transformer en devise éternelle. » La moindre possession matérielle peut être changée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement frappé d'immortalité. Dieu nous appelle à donner, à faire toutes sortes d'œuvres bonnes pour lui, et nous promet de faire croître le fruit de notre générosité. On voit au verset 10, à la fin du verset 10. Dieu promet de faire croître le fruit de notre générosité. Dieu promet que ce que nous donnons n'est pas donné pour en vain, mais que ce que nous donnons est fait pour faire croître son œuvre dans ce monde. Nous sommes appelés à utiliser notre argent pour nos besoins et faire de bonnes œuvres avec le reste. Comme Paul le dit en 2 Corinthiens 8, versets 13 à 14, il dit « Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, vous, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. » Toute la question aujourd'hui est de définir ce qui est du besoin et ce qui est du superflu. Et voilà ce que dit Tim Keller à ce propos. C'est le problème de la grenouille dans la marmite. Les chrétiens d'il y a 40 ans seraient choqués de voir ce que les chrétiens d'aujourd'hui considèrent comme des nécessités. Mais nous voyons les choses de cette manière parce que nous considérons le nécessaire à la manière de la culture capitaliste de consommation qui nous pousse à en faire de telles, c'est-à-dire à toujours rechercher plus et plus vite. C.S. Lewis ajoute « Si les dépenses affectées à notre bien-être, nos luxes, nos divertissements, etc., rejoignent le standard de vie courant de ceux qui ont un revenu semblable au nôtre, nous ne donnons probablement pas assez. Il doit y avoir des choses que nous aimerions faire et ne pouvons nous permettre parce que nos offrandes ne nous l'autorisent pas. » Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est superflu dans nos vies? De la définition de ces deux notions va dépendre en grande partie notre capacité à être généreux, notre capacité à vivre la libéralité chrétienne de façon joyeuse, pour réaliser les œuvres bonnes voulues par Dieu. Une autre tendance qui peut souvent nous empêcher de donner pour réaliser ces œuvres bonnes, c'est qu'on a trop souvent tendance à chercher à remettre nos offrandes jusqu'à ce que nous nous sentions en mesure de donner. Un jour, un pasteur visite un fermier. Il lui demande « Si vous aviez 200 euros, en donneriez-vous 100 au Seigneur ?»« Certainement !»« Si vous aviez 2 vaches, en donneriez-vous une au Seigneur ?»« Mais bien sûr !»« Si vous aviez 2 cochons, en donneriez-vous un au Seigneur ?» Et le fermier de répondre « Ça, c'est pas juste. Vous savez très bien que j'ai 2 cochons. » À quel point retournons-nous ce que nous avons en disant « Il faudrait juste un peu plus. » Une perspective de carrière, un changement X ou Y de nos finances pour pouvoir donner. Et quand je vous pose cette question, je me la pose à moi-même. À quel point est-ce que je remets les choses? Paul fait référence dans les versets 11 à 12 à une seconde raison qui doit nous encourager à donner, largement. Notre générosité permet aussi de susciter la prière, la reconnaissance envers Dieu. On relit juste ces deux versets. « Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. » Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu permet à certains de ses enfants de vivre avec bien plus de biens qu'ils n'ont besoin, comme pour beaucoup d'entre nous ce matin, il ne faut pas se le cacher, et en même temps, à d'autres enfants de Dieu, de vivre avec moins que le nécessaire à travers le monde? Après tout, pourquoi Dieu permet-il que certains chrétiens aient bien plus de biens et que d'autres en aient bien moins que le nécessaire? Je crois que la réponse à cette question un peu existentielle tient dans ces deux versets. Dieu permet cela tout simplement pour que ses enfants apprennent à s'entraider, apprennent à s'aider mutuellement, ce qui aura pour conséquence des prières de reconnaissance qui monteront vers lui, des prières qui monteront vers Dieu. Si Dieu nous permet d'avoir plus de biens que nous n'en avons besoin, ce n'est pas pour que nous en profitions égoïstement, mais pour deux objectifs bien précis que Paul décrit au verset 12. D'abord, pour pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs et réaliser ainsi les œuvres bonnes voulues par Dieu, comme on l'a vu sur le premier point. Dieu t'enrichit pour te donner la capacité de venir en aide à tes frères et sœurs. Dieu t'enrichit pour que tu puisses donner largement. Et deuxième point, deuxième objectif, faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. L'aide apportée à un chrétien qui est dans le besoin, qui manque du nécessaire, par des frères et sœurs qui ont fait l'effort de donner pour lui. Et je crois un puissant encouragement pour lui, pour remercier son Dieu. Pas pour remercier le donateur humain avant tout, mais pour remercier Dieu qui a transformé le cœur du donateur humain pour qu'il soit sensible à cela, qui a transformé le cœur du donateur humain pour qu'il puisse donner largement pour son frère et sa sœur qui est dans le besoin, qui est dans la détresse. Cela va dans le sens des paroles de Jésus en Matthieu 5, verset 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils lui attribuent la gloire à qui ? À votre Père céleste. Les dons que nous pouvons faire sont là pour que ceux qui les reçoivent puissent attribuer la gloire à notre Père céleste parce qu'il a transformé nos cœurs. Ces versets nous montrent donc que par nos dons, par notre générosité, nous pouvons produire la reconnaissance à Dieu. Nous savons aussi que Dieu est glorifié quand les hommes sont reconnaissants devant lui. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement que par notre générosité, nous possédons un moyen direct de glorifier Dieu, tout simplement, de glorifier Dieu. Est-ce que vous aviez déjà imaginé l'offrande, le temps de libéralité, de cette manière-là ? Comme un moyen direct de glorifier Dieu. À cause de la structure de nos cultes, nous pouvons avoir tendance à penser que le temps d'offrande fait partie des choses simplement administratives, fonctionnelles, comme les annonces, parce que souvent les deux sont liés à la fin du culte. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai demandé à Ricardo de mettre le temps d'offrande pendant le temps de louange, parce que quelque part c'est là sa vraie place. L'offrande n'est pas quelque chose de fonctionnel. L'offrande est un moyen de glorifier, d'honorer Dieu, comme nos prières. De la même manière, nous adorons Dieu par nos prières, nos chants, mais aussi par notre générosité. C'est aussi un moyen d'adorer Dieu. Et j'encourage d'ailleurs les présidents des prochains cultes à peut-être de temps en temps mettre le temps d'offrande pendant ce temps de louange, parce que c'est là sa vraie place, pour ne pas oublier sa vraie valeur. Ce n'est pas quelque chose de fonctionnel, c'est une façon d'adorer Dieu aussi. Et une troisième et dernière raison qui doit nous encourager à être généreux, c'est que cela nous permet de démontrer la réalité de notre foi en Dieu. Verset 4-13. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi dans la bonne nouvelle du Christ. L'un des problèmes les plus importants de l'Église primitive, à l'époque de Paul, résidait en la distinction qui était faite entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens qui étaient d'origine païenne. Il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes cherchaient en tout cas des problèmes, à faire des problèmes entre ces deux catégories de chrétiens. Et dans le cas de cette collecte, c'est justement des chrétiens d'origine païenne qui ont l'occasion d'aider, de soutenir des chrétiens d'origine juive. Cette collecte était donc un moyen très concret pour les chrétiens de Corinthe, pour les chrétiens d'origine païenne, de fournir une preuve formelle que Christ était bien à l'œuvre dans leur vie, comme de la même manière qu'il était dans la vie des chrétiens de Jérusalem. Christ était à l'œuvre de la même manière. Cette collecte représentait une preuve de l'authenticité de la foi des chrétiens d'origine païenne. Autrement dit, Paul explique que le fait d'être généreux est une preuve de l'authenticité de notre foi. La générosité est une marque véritable du véritable disciple de Christ. Randy Lacorn écrit à ce propos, « Notre libéralité ne naît pas par altruisme ou philanthropie. Ce n'est pas par mes propres forces, pas parce que je suis plus humaniste qu'un autre. Non, notre libéralité ne naît pas par altruisme, par philanthropie, mais bien de l'œuvre transformatrice de Christ en nous. La grâce de Jésus et l'impulsion, notre libéralité et la réaction. Je crois qu'il y a une idée reçue dans nos milieux qui minimise beaucoup la libéralité. Ce matin, je vous demandais quelles sont les disciplines spirituelles qu'un chrétien doit pratiquer. Qu'est-ce que vous me répondriez ? J'imagine que vous me diriez la lecture de la Bible, la prière, le témoignage, etc., etc., etc. Est-ce que les uns et les autres, on penserait à la libéralité ? Est-ce qu'on penserait à la générosité chrétienne comme une discipline du vrai disciple de Christ ? Nous pouvons en arriver à croire qu'être généreux n'est finalement qu'un détail de la vie chrétienne. À croire qu'on peut très bien être un chrétien véritable et ne pas donner à son église ou à une œuvre quelconque chrétienne. Et c'est tout simplement un mensonge. C'est ce que Paul nous montre dans ces versets. Le véritable disciple de Christ lit sa Bible, prie, témoigne et donne. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Notre croissance spirituelle devrait se voir à notre connaissance de la parole de Dieu, à notre intimité dans la prière avec Dieu et à toujours une plus grande joie dans la manière dont nous donnons à Dieu. Ça devrait se voir dans notre croissance spirituelle devant Dieu, notre joie à donner. Ne pas donner, c'est comme en fait ignorer une partie de notre vocation en tant que chrétien. Voilà ce qu'écrit Randy Alcorn, encore lui. Il est de plus en plus fréquent pour des chrétiens de se poser mutuellement des questions difficiles. Comment se porte ton mariage? As-tu passé du temps à lire la parole? Parviens-tu à préserver ta pureté sexuelle? As-tu partagé ta foi récemment? Mais avec quelle fréquence demandons-nous? Comment donnes-tu au Seigneur? Ou combien donnes-tu au Seigneur? Es-tu sensible au matérialisme? Lorsque notre frère en Christ est dans le besoin, nous avons une responsabilité à son égard. Et le manque de générosité est en fait la démonstration que notre foi n'est pas authentique. Jacques nous le rappelle, en Jacques 2, versets 15 à 17, « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. L'apôtre Jean dit la même chose en 1 Jean 3, verset 17. « Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. » Être généreux est donc aussi une manière de confesser le message de Christ. C'est une façon d'affirmer notre appartenance à Dieu. L'offrande est un acte de profession de foi. Par l'offrande, je professe ma foi. À l'issue d'un culte dans une église africaine, on passa le panier pour prélever l'offrande. Ce panier était en fait une calebasse en forme de soucoupe, servant à la cueillette du manioc. Assis sur le dernier banc de l'église, un petit garçon observait la scène, d'un air songeur, en voyant ce panier passer de rang en rang. La tristesse commença à le gagner, à la pensée qu'il n'avait rien à offrir pour Dieu. Et bientôt la calebasse arriva près de lui. Et à la stupeur des fidèles, pour qu'il imagine la scène, le garçon s'assit dans le panier en disant « La seule chose que je possède, je la donne au Seigneur. » En offrant une part de nos moyens financiers, de nos biens, nous faisons un acte de foi, un acte de profession de foi. En donnant une part des biens que je peux posséder, je montre que je suis un disciple de Dieu, un disciple de Christ. Je fais un acte de profession de foi. Je conclue avec le dernier verset de ce chapitre qui dit « Béni soit Dieu pour son don incomparable. » Nous avons parlé de libéralité, de générosité ce matin. Mais s'il faut une dernière raison pour nous encourager à donner, la voilà. Nous sommes encouragés à la générosité pour imiter Dieu, tout simplement. Parce que le plus généreux donateur qui soit, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous, pour ceux qui sont parents parmi nous ce matin ? Votre argent ? Ou vos enfants? J'imagine que la question ne se pose pas, sauf quand les enfants sont vraiment particulièrement capricieux. J'imagine que la question ne se pose pas, en manière générale. Dieu aurait pu me donner tout l'or du monde. Dieu aurait pu me rendre riche comme Crésus. Il ne l'a pas fait. Dieu m'a donné bien plus. Il m'a donné son propre fils. Plusieurs prières ont été données. Christ est venu sur terre, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Dieu a donné son propre fils. Christ est venu sur terre, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est ça le don le plus grandiose, le plus merveilleux que nous pouvons recevoir. Il a été généreux, Dieu a été généreux au-delà de toute limite. Cela fait dire à Dixie Fraley que c'est lorsque nous donnons que nous ressemblons le plus à Dieu. C'est lorsque nous donnons que nous ressemblons le plus à Dieu. Est-ce que nous voulons ressembler à Dieu dans sa générosité? Je nous laisse juste ces quelques questions d'ordre pratique pour que chacun peut se poser personnellement, pour vivre concrètement cela. Est-ce que tu as la joie de donner déjà? Quel sentiment t'habite lorsque tu compares ce que tu dépenses pour des choses superflues et ce que tu donnes en offrande à Dieu? Quel sentiment t'habite? Combien de fois as-tu reçu à ta table quelqu'un dont tu sais qu'il ne pourra pas te le rendre? Est-ce que tu te préoccupes discrètement de la situation matérielle de tes frères et sœurs dans notre église, à proximité? Est-ce que tu t'informes de ce qu'endurent les chrétiens à travers le monde, à travers peut-être des œuvres comme Porte Ouverte, comme le sel, comme d'autres, qui nous donnent des informations là-dessus? Est-ce que tu t'informes de ce qui se passe pour pouvoir donner, après avoir réfléchi aux besoins de nos frères et sœurs à travers le monde? Toutes ces questions, je vous les laisse, et je me les laisse bien sûr à moi aussi. Nous avons besoin de nous remettre devant Dieu par rapport à ces choses-là. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, je vous conseille un petit livre. Il est lu en 2 heures, même pas. Le principe du trésor de Randy Alcorn, dont j'ai cité quelques passages. C'est un livre qui se lit rapidement, mais qui prend du temps à être digéré. Que le Seigneur nous accompagne encore dans ce temps aussi. Amen.